Du fait de la révolution technologique, nous allons changer de métier plusieurs fois dans notre vie et le métier que vous exercerez dans 10 ans n'existe peut-être pas encore. Je m'appelle Isabelle Rouen, je suis entrepreneur et fondatrice du cabinet de recrutement de dirigeants Colibri Talent. Tous les jours, j'accompagne des femmes, des hommes et des entreprises qui se transforment et qui transforment leur métier. Avec ce podcast des métiers du futur, je vous propose de rencontrer des dirigeants, des entrepreneurs, des chercheurs. Bref, des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les métiers du futur. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Naudan. Arnaud, vous êtes président du directoire de BDO France et également l'hôte du podcast Coulisses de CEO. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré aux dirigeants ou à la dirigeante du futur. Bonjour Arnaud.
Bonjour Isabelle.
Bah écoutez, bienvenue au micro du podcast. Pour commencer, j'aimerais juste comprendre votre parcours et savoir ce qui vous a amené jusque-là. Est-ce que vous voudriez bien commencer par vous présenter ?
Alors oui, bien sûr. J'ai 41 ans. Je suis père de deux enfants, Léonard et Raphaël, 9 et 7 ans.
Il y a les photos dans le bureau où on enregistre.
Voilà.
Ils sont très beaux.
Ils sont derrière.
Ils sont très bien coiffés, ils sont très beaux.
Un air de famille.
C'est ça, oui, grave. C'est pas du tout radio, mais grave.
Donc, j'ai fait toute ma carrière dans des cabinets d'audit et de conseil. Peut-être si je remonte encore un petit peu en arrière, je suis originaire d'Aix-en-Provence. J'ai fait une bonne partie de mes études entre Aix et Marseille. Puis j'ai fait une école de commerce à Toulouse. Voilà, Toulouse pour moi, qui était le nord de la France à ce moment-là. Et puis, donc de suite après le diplôme, je suis rentré dans un cabinet d'audit et de conseil, concurrent aujourd'hui, confrère.
Ça arrive souvent quand on a fait une école de commerce.
Voilà, donc chez PwC au Luxembourg. J'y suis resté 4 ans. À la suite de cela, j'ai réalisé un rêve d'enfant. Je suis parti travailler 2 ans à New York. Et donc, je reviens en France en 2012. Et c'est donc à ce moment-là que BDO vient me chercher pour développer les activités dont j'étais spécialiste au sein du cabinet. Et donc, depuis, j'ai pris différentes responsabilités au sein du groupe jusqu'à donc la présidence il y a un peu plus de 3 ans.
Alors du coup, effectivement, vous dirigez BDO et quand j'ai préparé l'émission, je me suis rendu compte que BDO était justement une entreprise à mission. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des cabinets de conseil avec une mission, donc je trouvais ça intéressant comme angle.
Non, et d'ailleurs, on a été le premier dans notre secteur à adopter la qualité de société à mission. On en est très fiers. Déjà, pour dire ce que l'on fait, BDO, c'est un cabinet international d'audit et conseil, je le disais, un grand réseau, on est dans 160 pays, on a plus de 110 000 collaborateurs, et donc on fait des activités de commissariat aux comptes, d'expertise comptable, d'expertise sociale et de conseil dans le domaine du droit, du chiffre et des opérations. Donc voilà ce que l'on fait. Et donc, quand j'ai commencé à travailler sur mon projet dans le cadre d'une élection, parce qu'il faut savoir que dans un cabinet comme le nôtre, le président est élu par les associés. Quand donc je travaillais sur mon projet, on était en 2020, je faisais un MBA à HEC, on était confinés, j'étais dans une parfaite crise de la quarantaine. Et donc, j'avais 38 ans à l'époque, j'ai même fait un peu en avance. Je me suis posé un certain nombre de questions sur, finalement, l'entreprise dans laquelle je travaillais. Si je devais en prendre la tête, quel type d'entreprise je souhaitais incarner, quelles valeurs je voulais qu'on mette en place, et puis, surtout, quel sens on donnait à toutes ces missions. Et donc, la quête de sens, c'est pas quelque chose qui tape que les étudiants. Moi, ça m'a vraiment...
Ça arrive aux quadragénaires qui ont une entreprise à mission et qui rendent leur entreprise à mission, c'est pas mal.
Exactement, ça arrive aux quadras, et je me suis vraiment poser cette question-là, de dire il se trouve que pendant le Covid, nos métiers, on s'est vraiment rendu compte de ce qu'on faisait pour nos clients, et c'est vrai qu'on s'est vraiment transformé en téléconseiller, on a vraiment été au chevet des entreprises. Dans le même temps, moi j'ai pris une claque sur les enjeux environnementaux et vraiment l'accumulation de ces deux choses, je me suis dit, si je suis élu président, il faut qu'on donne du sens à notre mission, et donc je trouvais que le dispositif de la société à mission était finalement le plus ambitieux, le plus contraignant. J'ai toujours eu tendance à penser, et ça se retrouve dans pas mal de pans de ma vie, que finalement, si on veut que les choses aillent vite, c'est bien de se contraindre un petit peu. Donc j'ai proposé ça à mes associés. Voilà.
Et du coup, c'est quoi la mission de BDO ?
Alors la mission, la raison d'être est assez longue, donc je ne vais peut-être pas la dire
en
entier. Si, alors, nous sommes convaincus que les entreprises de demain sont celles qui s'engagent dans une transition durable. Passionnément engagées, nous mettons à leur disposition nos compétences sur l'ensemble des territoires où nous sommes présents.
J'entends beaucoup de fois le mot engagement.
Tout à fait. Et donc, passionnément engagé, qui est notre signature de marque. Donc, c'est vrai que dans la raison d'être, tous les mots sont choisis. Et donc, ça, c'est le premier aspect de la raison d'être du groupe. Donc, réellement, l'objectif derrière cela, c'est de capitaliser sur la confiance que font nos clients pour les amener à se transformer et à adopter des pratiques durables. Sauf que pour faire ça, on a besoin d'avoir des collaborateurs qui sont épanouis, qui sont heureux. Et donc, on souhaite mettre à la disposition de nos collaborateurs un modèle qui soit le plus vertueux et qui leur permette de s'épanouir professionnellement, personnellement, et qui contribuent à leur santé mentale et physique.
Comment vous faites ça concrètement, en vrai?
Alors en vrai, concrètement, on me la pose souvent cette question. Comment on la décline?
Il y a un bouquin derrière vous, on enregistre dans votre bureau, il y a un bouquin derrière vous qui dit « J'ai vécu l'Everest » qui est sur l'étagère. Et du coup, c'est pas du tout radio, mais ça renforce la question. Concrètement, comment ça marche?
Alors, quand vous devenez une société à mission, après avoir défini votre raison d'être, vous fixez des objectifs statutaires. Donc aujourd'hui, il y a des objectifs 5 qui sont dans nos statuts, donc contraignants, sur chacun des aspects de la mission. Le premier, peut-être le plus important, je dirais, qui est de sensibiliser, d'informer nos clients sur les enjeux de société. Mais on a également des engagements sur la diversité, sur l'inclusion, sur l'insertion dans les territoires, sur la santé mentale et physique de nos collaborateurs. Et donc, en face de chacun de ces objectifs, on a un plan d'action pour opérationnaliser la mission et donc avec des actions concrètes dans chacun de nos bureaux. Donc, si je donne un exemple sur le premier, on a un plan de déploiement de la fresque du climat chez nos 2000 collaborateurs. On a créé une communauté de 25 fresqueurs aujourd'hui qui vont aller dispenser l'atelier fresque du climat chez nos clients et donc commencer à engager un dialogue sur les problématiques de transition environnementale. Sur l'inclusion, la diversité, on a refondu nos process de recrutement, on est partenaire d'événements, on fait beaucoup de sensibilisation sur les sujets, on ouvre le cabinet le plus possible à des personnes qui n'avaient pas forcément accès au métier du conseil et de l'audit. Donc vraiment, en face des 5 objectifs, il y a un plan d'action. Et peut-être le sujet qui est aussi très transformant, c'est que ça vous amène à revoir la gouvernance de l'entreprise. Avec un nouveau comité, qui est le comité de mission, qui est composé de 2 salariés, mais également de personnalités externes, représentatives de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Donc nous, dans notre comité, on a par exemple Julia Maris, qui est la VP RSE d'Engie.
D'accord.
On a une prof d'HEC, on a un certain Christian Leroux, qu'on connaît bien.
Qui est un ami commun, voilà, et qu'on va saluer au micro de ce podcast.
Voilà, on l'embrasse.
Christian, te dédicace l'épisode.
Qui nous connaît bien, qui est donc secrétaire général d'M2I Group. On a une personne qui s'appelle Stéphanie Nine Beaumont, qui est associée chez Fitrust, un fonds à impact, une ancienne ministre, donc voilà, des personnalités qui représentent l'ensemble de nos parties prenantes et qui sont vraiment chargées de vérifier que l'entreprise met bien les moyens pour atteindre ses objectifs de mission. Donc c'est vraiment une transformation de l'entreprise.
Alors c'est hyper intéressant et ça fait le lien avec le podcast, votre podcast, parce que vous êtes aussi l'hôte d'un podcast que moi j'écoute, voilà, Confrères Podcasteurs, donc c'était aussi un des points de rencontre. Et du coup, vous avez parlé d'engagement sur la diversité et d'engagement sur la fresque du climat. Moi, j'ai écouté les 2 épisodes que vous avez fait, un avec Saïd Amouche de Mosaïque RH, un avec Cédric qui est l'un des créateurs de la fresque ou le créateur de la fresque. Mm-hmm. Quel est, vous, votre retour d'expérience en tant que podcasteur?
Alors, peut-être pour parler de pourquoi est-ce qu'on a décidé de lancer ce podcast. Moi, c'est effectivement un support que j'aime beaucoup, donc j'en écoute personnellement. Et surtout, je trouvais que c'était un très bon contenu pour... essayer d'inspirer les personnes, de présenter des parcours. Et surtout, ce que je recherchais dans ce podcast, c'était à la fois de montrer une discussion entre 2 CEO. Et en fait, on s'était rendu compte que ça n'existait pas vraiment dans un format assez informel, d'échange, vraiment pour partager des visions et surtout humaniser la fonction de dirigeant.
Et alors justement, au bout d'une dizaine d'épisodes, c'est quoi pour vous les enseignements que vous en tirez sur le dirigeant, le CEO du futur, le leader du futur? Qu'est-ce que vous en voyez?
Je pense que chacun des invités a son propre parcours, sa propre histoire et sa propre leçon, parce que c'est ce qu'on va chercher dans le podcast, une leçon de CEO. Moi, ce que j'aime beaucoup et ce que je trouve assez inspirant, c'est qu'on voit que finalement ces personnes se sont construites progressivement, que finalement ils sont pas nés comme ça et que c'est l'accumulation de rencontres, d'opportunités qui ont fait que ils sont arrivés au poste où ils sont arrivés. Moi, ce qui m'inspire aussi beaucoup, c'est en fait de me rendre compte que ces personnalités, enfin les personnes qui exercent ces fonctions dans l'entreprise sont des gens qui ont une réelle vision sur le monde, sur la société. Et donc, à chaque fois, vu qu'ils sont tous différents, en fait, et on est tous différents dans ces fonctions, ça permet de pouvoir partager les visions. Et finalement, même pour moi, qui finalement suis dans l'échange. Bah, moi aussi, parfois, ça m'arrive de sortir du podcast en me disant bah, « Tiens, peut-être que ça, il faudrait que je l'essaye dans l'entreprise. Enfin, » Donc finalement, c'est inspirant aussi pour moi. Donc après 8 épisodes, on est très satisfait du résultat.
Alors je vous rejoins aussi, parce que moi, j'ai fait ce podcast-là sur un énervement de confinement et de confinement 2, parce que moi, mon moteur, c'est la rencontre. Et qu'en confinement, on ne rencontrait pas grand monde. Et c'est comme ça que je me suis formée au podcast et que je me suis dit « On va y aller ». Et c'est vrai que finalement, on interviewe des gens, on échange avec des gens et on en ressort grandi ou on fait partager quelque chose à un public. On se dit, en fait, ça, je pourrais le dupliquer pour moi d'une certaine façon auprès de ma boîte, auprès des candidats, auprès des clients. Et c'est vrai que c'est un moteur, je trouve, d'apprentissage et de façon d'aller en avant qui est incroyable.
Ouais, et puis on présente souvent, enfin, quand on regarde l'univers des podcasts d'interview, on a beaucoup d'entrepreneurs.
Oui.
Qui parle l'origine de l'entreprise, la success story derrière leur entreprise. Et donc, j'ai prévu des épisodes avec des entrepreneurs qui ont une vision qui est très intéressante. Mais par contre, j'ai reçu des dirigeants de grandes entreprises, Virginie Calmels.
Du coup, comment vous sélectionnez vos invités?
Alors, je dirais les premiers, c'était le cercle proche, hein, des amis, des gens, avec des gens avec qui j'avais déjà une relation, soit des relations personnelles, soit professionnelles. Et donc là, on cherche, on marche beaucoup par recommandation, typiquement des invités qui étaient contents du podcast, qui me disent, tiens, il faudrait que tu invites telle personne. Et puis ensuite, j'essaie d'avoir sur le podcast des gens qui ont une histoire un petit peu particulière, qui ont vraiment une vision sur le leadership. Moi, je tourne beaucoup de mes questions autour du leadership. Qu'est-ce que fait vraiment le leader? Comment est-ce qu'il s'est construit? Comment est-ce qu'il anime ses équipes? Quelle est la vision qu'il a pour l'avenir sur les sujets de transition écologique, sur les sujets d'IA? Et donc, d'essayer d'avoir des personnes qui sont légitimes pour témoigner de ces sujets. Mais finalement, tous les CEO ont une vision, donc le choix est très, très vaste.
Et du coup, quelle est la vôtre sur ces sujets de leadership, sur l'IA générative et ces transitions climatiques?
Alors moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que s'il y a deux choses qui doivent être sur l'agenda des dirigeants aujourd'hui, c'est la transition écologique et l'arrivée de l'IA. Je pense que c'est les deux principales ruptures qui vont nécessiter une transformation profonde de la société et des entreprises. Et donc, sur la transition écologique, on en a fait notre raison d'être. Donc, je dirais, on en est absolument convaincu. Et je crois que c'est Olivier Brouran, que j'embrasse aussi, qui est venu sur le podcast, qui disait finalement, piloter sa performance extra-financière aujourd'hui, c'est autant le béaba qu'il y a 20 ans de piloter son cash et son EBIT. Et vraiment, je le rejoins là-dessus, je pense que tous les dirigeants aujourd'hui doivent considérer ces changements et transformer leur entreprise. C'est un vrai sujet de pérennité. Et puis concernant l'IA, moi, même si notre métier ressort souvent parmi les métiers qui vont être disruptés par l'IA, moi je crois pas vraiment ça. Je pense qu'au contraire, ça va être une opportunité énorme pour l'ensemble des entreprises, pour se transformer, pour aller sur des nouveaux terrains. Et donc là aussi, je pense que tous les dirigeants aujourd'hui doivent pas simplement être sensibilisés à l'IA, mais doivent utiliser les applications, doivent se l'approprier et doivent faire en sorte que leurs collaborateurs commencent à s'approprier ces outils.
Mais ce qui est sûr, c'est que ça change quand même beaucoup la donne aujourd'hui. Moi, ce que je vois de mon point de vue, alors je vais pas dire experte en métier du futur, c'est pas le sujet, mais de personnes qui voient le travail évoluer, c'est que ça impacte tous les métiers, y compris les métiers à valeur ajoutée, de création de contenu et de conseils. Et surtout, ça impacte les jobs des juniors, les jobs des débutants qui aujourd'hui peuvent être en partie délégués à une intelligence artificielle. C'est à la fois formidable et à la fois, je pense que ça, il y a un côté menace, parce que là où on formait des cohortes de gens qui arrivaient sur le marché du travail, sur des métiers où ils apprenaient comme ça, ça peut être aujourd'hui en partie remplacé par l'IA générative. Donc il y a un vrai sujet aussi sur comment est-ce qu'on emmène tout le monde en fait, et notamment comment est-ce qu'on continue d'emmener nos jeunes quoi.
Ça va nous amener à repenser la manière dont on forme nos collaborateurs, effectivement, mais ça va surtout nous permettre, je pense, de repositionner nos jeunes collaborateurs qui sont talentueux sur vraiment les tâches à valeur ajoutée pour nos clients. Donc moi c'est comme ça que je le vois. Et puis pour répondre au premier point que tu avais abordé sur le leadership, moi j'ai toujours pensé que le leadership évoluait, que c'était pas quelque chose qui était acquis et que finalement on pouvait progresser et c'était finalement l'expérience qu'il faisait. Et puis moi j'essaye toujours de d'être aligné, de communiquer, d'agir, d'avoir de l'impact. Je pense qu'un leader aujourd'hui c'est quelqu'un qui a de l'impact, qui a une vision, qui a un point de vue.
C'est quoi l'impact?
Je pense qu'il y a plein de définitions de l'impact, on peut y donner. Moi, je dis souvent, quand j'ai décidé de quitter la société dans laquelle j'étais avant BDO, ce qui m'a motivé, c'était que je voulais avoir de l'impact dans une société. Sur ses décisions, sur sa stratégie, ça c'est peut-être une première définition. Après, l'impact, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et j'y adhère, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut, pour les entreprises, à la fois coupler sa performance, son business, avec le bien commun, et donc faire en sorte qu'on agisse avec impact sur nos collaborateurs, sur nos parties prenantes, sur nos partenaires, et donc finalement qu'on ne soit pas uniquement centré, mais que les entreprises s'ouvrent et agissent au-delà de leurs propres portes.
C'est une jolie définition, le bien commun autour de l'impact.
Merci.
Alors, vous êtes engagé sur l'égalité des chances et vous avez d'ailleurs réalisé un épisode que j'ai moi trouvé remarquable avec Saïd Abouche sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre vision de la diversité dans l'entreprise et de comment ça se concrétise chez BDO ?
Alors, ma vision sur le sujet, c'est qu'une décision sera mieux prise si elle est prise par un groupe de personnes venant d'horizons différents.
Je plus sois.
Voilà. Dans le sens où on a finalement cette chance dans notre organisation, c'est d'avoir vraiment des recrutements, des collaborateurs et des associés venant d'horizons très différents, à la fois par le métier qu'ils exercent. Hein, on est par définition un groupe très diversifié, mais à la fois par leur culture, leurs origines, leur parcours académique. Et donc je suis vraiment convaincu, pour l'avoir observé aussi, ne serait-ce qu'à HEC quand j'ai fait mon MBA, quand vous mettez un gendarme, un marketeur, un financier qui flanche sur la même problématique, c'est assez intéressant de voir toute la richesse que vous pouvez avoir.
Ça donne pas la même chose, on est d'accord.
Et c'est pas la même que si vous avez mis un groupe de clones. Donc je pense que, voilà, moi j'ai toujours vu la diversité comme un levier de croissance et un levier de performance pour l'entreprise. Et après, je pense que c'est un enjeu de société aussi. Je pense qu'il y a des biais dans les recrutements aujourd'hui, que l'être humain va aller naturellement sur les personnes qui lui ressemblent, sur les personnes qui ont fait la même école, qui ont le même hobby. Et finalement, on va biaiser, et on ne va pas permettre à chacun d'intégrer nos entreprises. Et c'est bien là où on veut œuvrer, c'est que chez nous, tout le monde a l'entrée et les mêmes chances, et que l'entreprise soit représentative de la société. Voilà.
Alors, je vous rejoins complètement, surtout que moi, mon vrai métier, c'est pas podcasteuse, c'est recruteuse. Le premier geste que j'ai fait quand j'ai créé le cabinet il y a 7 ans, c'est d'adhérer à la charte de la diversité. Et moi, je me forme, tous les 15 jours, je fais un test sur les biais cognitifs, un test qui s'appelle le test implicite à Harvard, pour me rappeler que même moi, je suis biaisée, qu'en début de shortlist, je suis capable de mettre des biais dedans, et qu'il faut essayer de faire un maximum pour que ce soit débiaisé, parce que c'est vrai que c'est un enjeu, et c'est pas que un enjeu sociétal, c'est aussi un enjeu de performance, parce que plus on est différent pour prendre une décision, plus on a de chances de prendre une bonne décision.
Je suis d'accord.
Alors, par contre, je pense qu'il y a peu de femmes CEO aujourd'hui. Ça se rejoint un tout petit peu dans le line-up de votre podcast, même si on sent que vous avez essayé de le diversifier. C'est quoi votre vision du sujet là-dessus, sur les femmes dirigeantes ?
Je pense qu'on a fait quand même beaucoup de progrès. Et là, si je regarde sur les 8 premiers épisodes, effectivement, il y a 2 femmes. C'est plus un hasard, très honnêtement, parce que quand je regarde les prochains épisodes qui vont sortir, il y a davantage de femmes CEO. Donc je pense qu'avec le volume, ça s'équilibrera et on aura un podcast qui est paritaire.
Et moi qui suis une grande féministe, j'ai ramé pour avoir une première saison paritaire. Je suis à peu près à la parité aujourd'hui et la première saison, honnêtement, j'ai triché avec les rediffs. Donc c'est pas du tout fait pour être une question piège. C'était pas le point.
C'est
plus une question de comment on fait aujourd'hui pour amener des femmes talentueuses et qui le méritent et qui ont les capacités, hein, c'est évident, à devenir CEO. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles se positionnent sur ces jobs-là ? Parce que vous l'avez dit, vous, quand vous êtes positionnée, que vous avez eu la réflexion à la 38aine en plein confinement, c'était une réflexion, c'était une démarche. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de femmes qui à un moment se disent « je m'y colle, je vais y aller, c'est moi qui vais ».
Je pense que déjà, on essaie de faire en sorte que ce soit un non-sujet en fait, dans l'entreprise et qu'on ne se dise plus « il faut absolument ». On essaie de faire en sorte que toutes les étapes, et quand je regarde, nous, enfin c'est un sujet sur lequel on travaille, hein, on a 60% de femmes dans l'organisation et on n'a que 30% de partenaires, même si on a annoncé notre nouvelle gouvernance, on est le premier cabinet d'audit et de conseil à avoir une gouvernance paritaire à partir du 1er janvier. Merci beaucoup. Mais je dirais, on n'y est pas parvenu parce que voilà, on n'a pas mis de quota, les promotions internes ne se font pas sur ces critères-là. On essaie simplement d'avoir à toutes les étapes du process et à toutes les étapes de l'évolution de nos collaborateurs une organisation qui permette à tout le monde de se développer. Après, on parle beaucoup de biais comportementaux. On dit souvent que les hommes sont plus agressifs pour demander des promotions, plus agressifs pour demander des augmentations de salaire. Je pense que l'enjeu, surtout, c'est de mettre en place une culture et une organisation où, justement, tout le monde a la capacité de pouvoir se développer. Après, on a mis des actions aussi concrètes. Et c'est pas forcément écrit, mais je dirais, c'est un état d'esprit. Moi, je sais que quand on nous propose des promotions, si on propose un homme, je dis systématiquement, est-ce qu'on a une femme, déjà ? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas de femme ? Après, ce sera peut-être un homme, on ne met pas de quota et je pense qu'il ne faut pas tomber dans la discrimination.
Tout à fait.
Dans la discrimination positive, mais simplement faire en sorte que tout le monde puisse y aller, qu'on anime un vivier, qu'on anime une communauté, qu'on prenne des engagements. Voilà, nous, on est partenaire des Assises de la Parité, où on va discuter avec des entreprises, avec des associations sur les bonnes pratiques, on forme nos personnes, on communique. Et je pense que voilà, c'est par l'accumulation de petites actions que finalement, on permet à tout le monde de pouvoir progresser dans l'entreprise, y compris les femmes.
Et je vous rejoins sur le fait que ça a pas mal progressé ces dernières années.
Oui, ça a progressé. Après, bon, il y a eu des lois sur les quotas dans les conseils d'administration, là maintenant les COMEX, alors il y a eu beaucoup de débats. Moi, à titre personnel, j'étais pas favorable aux quotas, mais par contre, il faut reconnaître que ça a permis de, quand même d'avancer peut-être plus vite que si ça n'avait pas existé. Donc ça s'améliore.
Moi, j'étais archi compte il y a 10 ans, et honnêtement, je reconnais que je suis un peu revenue dessus parce que ça a fait bouger les lignes.
Ouais. Je pense qu'on est beaucoup à se dire ça.
Et en c'est fait. Insupportable quand on vous dit t'es une femme quota. Il m'arrive de temps en temps d'être la femme de la table ronde, la femme du plateau télé, enfin voilà, entre guillemets, la fille du plateau, ça m'arrive. Et c'est à la fois sympathique quand ça vous donne une chance de vous exprimer, un peu pénible quand on vous dit je suis là juste parce que je suis la fille du plateau. Et d'un autre côté, j'y étais défavorable il y a 10 ans, et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ça a fait bouger les lignes. Ou qu'en tout cas, ça a fait que chaque dirigeant se pose la question.
Exactement.
C'est ce que vous dites, est-ce qu'on a une femme ?
Ouais, je pense qu'en fait, même les entreprises qui n'étaient pas obligées d'imposer ces quotas, je veux dire, si on raisonne comme ça en se disant on a besoin d'avoir des femmes dans notre board, dans notre COMEX, dans notre partnership, dans notre entreprise, et ben ça oblige à se dire ben, où est-ce qu'elles sont. Et en fait, souvent, et c'est Christine Lagarde qui disait ça en réponse à des personnes qui disaient ben, on voudrait bien, mais on n'en a pas. Et en fait, de dire non, c'est faux, ça. Il y en a forcément, c'est simplement que vous ne les voyez pas ou vous n'estimez pas leur potentiel parce que vous êtes biaisé. Et en fait, si on se pose raisonnablement la question, bah, tiens, j'ai une promotion, est-ce qu'à minima, je peux avoir la candidature d'un homme et d'une femme ? Bah, on se rend compte qu'en fait, on les a.
C'est une jolie façon, en fait, je pense, d'illustrer ce point-là. Et une dédicace également à Christine Lagarde. Moi, j'avais été impressionnée, elle avait fait un podcast avec Léa Salamé, Femme puissante. Où elle racontait beaucoup de choses sur ce sujet-là, et je pense que ça fait aussi bouger les lignes dans le bon sens. C'est quoi aujourd'hui votre vision du futur des métiers du conseil ?
Je pense que le besoin de conseil va être de plus en plus important pour les entreprises. Et en lien avec les deux ruptures que j'exposais tout à l'heure, et quand je parle de conseil, c'est du conseil divers, effectivement du conseil pour des cabinets comme les nôtres, du conseil en recrutement, parce que effectivement les compétences vont évoluer, il va falloir aller chercher des profils différents, les entreprises vont vraiment devoir se transformer, donc je pense que le besoin de conseil va être extrêmement important. Je pense, et j'en parlais justement avec Cédric dans l'épisode du podcast qu'on a mis ensemble, qu'il y a un véritable enjeu pour les cabinets de conseil de travailler en écosystème, de collaborer, pour pouvoir justement répondre à ce besoin. Et ce qu'on disait dans le podcast, c'est que finalement, si on fait le pari que la transition va se réaliser, il va y avoir un tel besoin de conseils pour transformer les entreprises et revoir les business models des entreprises qu'il va falloir qu'on collabore tous ensemble et qu'on trouve des synergies. Et puis, en interne, je dirais, le métier du conseil bah, se transforme déjà. On a déjà abordé l'impact qu'aura l'IA sur nos métiers vis-à-vis des jeunes générations, dans la manière dont on va les embarquer et dont on va continuer de leur donner du sens. Nous, c'était aussi ce qu'on voulait faire quand on a adopté la qualité de société à mission, c'était de redonner du sens au conseil, de redonner de la crédibilité au conseil. Le conseil a été assez impacté par le scandale McKinsey, l'image que parfois les gens peuvent avoir du conseil, c'est faire des slides, c'est du vent. On a d'ailleurs fait une campagne de marque employeur sur le sujet pour renforcer l'attractivité de nos métiers, y compris du conseil. Et donc je pense qu'un des enjeux du conseil va peut-être être de démontrer sa réelle valeur ajoutée et son impact. Et en fait, on a besoin de consultants, les entreprises ont besoin de consultants, mais on a besoin d'avoir des consultants qui créent de la valeur, qui partagent les risques avec leurs clients. Et je pense pour moi, c'est avec les ruptures technologiques qui vont impacter le métier, probablement les deux plus grands enjeux, le sens et la transformation des compétences liées à la technologie.
Alors je vous rejoins là-dessus, et du coup, est-ce que vous recrutez en 2024 ? Et si oui, sur quel profil ?
Alors on recrute dans toujours l'ensemble de nos métiers, dans tous les cas.
Joie.
On recrute environ 500 personnes par an dans une phase où on va même augmenter nos niveaux de recrutement, parce que l'ambition du groupe était dès le départ de doubler de taille à l'horizon 2026, et on est en bonne voie. Donc effectivement, on cherche à recruter sur tous nos métiers, dans tous les secteurs, et je dirais toutes les candidatures qui arrivent, on les évalue, même si on n'a pas, techniquement un poste ouvert. Un bon candidat, un bon collaborateur, on regarde toujours, et si on est intéressé par l'expertise et par la personnalité, bah, il aura toujours une place chez nous.
Ça c'est super, et du coup j'avais aussi en tête que vous aviez une stratégie de rachat ou de croissance externe importante, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors oui, quand on a bâti notre plan stratégique, on souhaitait l'équilibrer avec de la croissance organique et de la croissance externe. On se positionne comme le leader du conseil et de l'audit pour les PME et les ETI. Et vraiment, notre positionnement, c'est d'être le partenaire de référence des PME et des ETI en France, et avec un modèle one-stop-shop pour ces dirigeants-là. Et donc, il y avait deux éléments. C'était à la fois consolider des practices existantes pour gagner des parts de marché, et puis ensuite diversifier les offres du groupe sur des métiers complémentaires de nos métiers actuels, pour pouvoir réaliser cette ambition. Donc effectivement, ça passe par de la croissance organique, de l'acquisition de clients, mais ça passe aussi par du recrutement de nouvelles équipes et du rachat de sociétés. On a été effectivement très actifs depuis 3 ans. On a fait 11 opérations depuis 2022, dont une très significative, voilà, qu'on a annoncée il y a 2 mois dans les métiers du conseil. Et on reste acheteur. Voilà, on reste, même si on a bien développé nos process pour intégrer les structures qu'on rachetait. Et donc, dans les 5 prochaines années, on restera acheteur et on sera très actif sur le marché du M&A.
Le message est passé tant pour les recrutements que pour le M&A.
Exactement.
Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. La première que j'ai envie de vous poser, c'est quoi votre journée type ?
Alors, la journée type, je me lève assez tôt. Voilà, globalement, entre 4 et 5 heures du matin. Aujourd'hui,
ah ouais,
aujourd'hui spécifiquement, j'ai fait fort. Je crois que j'étais levé à 2 heures.
On va le dire pour les auditeurs. Voilà, on est le 22 décembre.
C'est ça.
L'épisode sera diffusé le 10 janvier. Vous êtes mon dernier rendez-vous de l'année. Je crois que je suis le vôtre également avant qu'on ferme, avant qu'on ferme boutique, avant la Noël.
J'ai les enfants à aller chercher dans une demi-heure.
On va être hyper efficace.
Généralement, c'est assez tôt le matin. Petit déjeuner rapide, une heure de digestion. Derrière, je vais faire du sport.
Faites quoi comme sport ?
Alors moi, je fais beaucoup de courses à pied, du triathlon. Donc je fais.
Vous grimpez l'Everest ?
Et je
vous
fais
l'avez fait ?
Voilà, ça, non, j'ai pas fait, mais ça c'est prévu. Voilà, j'ai un peu un rêve, je dirais. Dès que je ne suis plus président de BDO, voilà, j'irai faire l'Everest. Et en fait, c'est un de mes associés, voilà, Benjamin, je l'embrasse aussi, qui m'a acheté ce livre après que j'ai fait l'ascension du Mont Blanc.
C'est voilà. Chouette. Et donc, je vais virer la question. C'est quoi votre prochain défi ? Je crois qu'on a la réponse.
Oh, il est le prochain. Ce sera une course de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Voilà,
la
TDS, un peu moins ambitieux que l'Everest, mais voilà, l'Everest, ça se prépare. Et donc, l'objectif, c'est de le faire avant les 50 ans. Voilà.
Qu'est-ce qui vous tient éveillé la nuit ?
Qu'est-ce qui me tient éveillé la nuit ? Il y aurait plein de choses. Le boulot. Non, clairement, ça m'arrive de me réveiller, d'avoir une idée, et du coup, de ne pas me rendormir. Je sors l'ordinateur, j'écris quelque chose.
Et qu'est-ce qui vous fait lever le matin ?
La volonté de délivrer ce plan stratégique et d'aller au bout de nos objectifs. Voilà, on s'est donné un plan très ambitieux, on a une mission opérationnalisée, on a une croissance et une entreprise à transformer, à faire connaître, qui est bourrée d'expertise et bourrée de collaborateurs talentueux. Et donc, souvent, ce que je dis en interne, c'est je m'arrêterai quand tout le monde connaîtra cette marque et reconnaîtra la qualité des collaborateurs qui composent l'entreprise.
Si vous aviez un livre, un podcast, un contenu à conseiller à nos auditrices et auditeurs qui s'intéressent au futur du travail, ce serait quoi ?
Je conseille Coulisses de CEO, donc un podcast de BDO France animé par Arnaud Naudan.
Voilà. C'est effectivement une promotion croisée,
exactement.
Non rémunérée.
Exactement, non, c'est pas coordonné.
Pas du tout. Si nos auditrices et auditeurs veulent vous joindre, c'est quoi le meilleur moyen ?
Les réseaux sociaux,
LinkedIn,
Insta.
Ça marche. Eh ben, on mettra ça dans les notes du podcast. Merci
Avec
beaucoup
plaisir.
Arnaud.
Merci beaucoup Isabelle.
Merci, à bientôt.
À bientôt et bonnes vacances.
Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcasts. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.